Et il est 19h22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Le commerce électronique, c'est la mort du petit commerce. C'est lui qui a tué ou en partie vidé les centres-villes. Le commerce électronique, c'est la fin du lien social. Le géant du commerce électronique s'appelle Amazon, une entreprise aux méthodes sociales plus que contestables qui écrase tous les autres et finira par nous éloigner définitivement de tout commerce de proximité. Bon. Et si on regardait la photo d'un tout petit peu plus près, c'est peut-être plus compliqué que ça. Il y a du vrai dans ce que je viens de dire, évidemment, Amazon est un mastodonte, mais il y a aussi tous les autres, et il y a aussi un autre commerce électronique. Le confinement en a été la démonstration et a sans doute modifié intégralement la donne. Les petits commerçants, ceux de vos centres-villes, justement, se sont lancés dans la vente en ligne, d'abord pour rester en vie, et aussi parce que, finalement, ils se sont rendus compte que les gens étaient preneurs, ils sont toujours en ligne aujourd'hui que nous avons déconfiné. On parle des habits, on parle du chocolat, on parle des produits frais, on parle du circuit court, on parle au fond de tout. Certains sont entrés sur des plateformes locales, d'autres ont été chercher la souscription Amazon parce que subitement ce sont des milliers de personnes qui ont accès à vos produits, ce qui n'empêche pas de laisser les boutiques ouvertes bien sûr. Bref, tout blanc, tout noir, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Et posons même la question comme ça ce soir, et si le commerce de proximité, et si le commerce électronique était sauvé, sauver le commerce de proximité, ça y est, c'est dans l'ordre, bah dites donc, ça va être compliqué. À vous de nous le dire, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Eh bien, on va commencer par un exemple, et c'est le vôtre, Laurence. Laurence Collin, vous avez une boutique de vêtements à Angers. Bonsoir à vous.
Voilà, exactement, bonsoir.
Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous.
Eh bien, écoutez, on avait un projet de développer une plateforme locale. Ça nous avait été soumis par une start-up. Et le confinement a accéléré les choses. La plateforme a vu le jour pendant le confinement, a été rejointe par... elle était prévue pour 50 commerçants initialement. Il y a 300 commerçants qui ont rejoint le projet. Mm-hmm. Et j'ai rejoint le projet dès le démarrage, on va dire. J'ai rejoint la plateforme. Le temps libre nous offrait effectivement, nous a permis d'avancer, de se polariser sur ce projet, de développer tout ce qu'il fallait pour développer mm-hmm. un site photo, code barre, etc. On avait tout le loisir de le faire. Et finalement, ça nous a permis d'avoir des commandes pendant le confinement, de rester un pied dans le commerce, parce que le moral peut baisser dans ces périodes.
Bien sûr.
Donc, ce qui permettait de nous dire que ça, c'était salutaire et ça nous donnait une issue de pouvoir s'en sortir. Finalement, au-delà du confinement, les commandes ont continué à arriver. Et là, j'ai une commande par jour. J'ai un petit commerce de prêt-à-porter en centre-ville. Et finalement, le commerce physique et digital se complète. Hein. Il faut trouver une formule hybride comme ça, parce que le commerce physique n'est plus suffisant. La jeune génération va se diriger vraiment sur le digital, et il faut s'en servir. C'est nos prescripteurs en fait. Les jeunes, montrent à leurs parents et ça fait venir de la clientèle.
Laurence,
en fait,
pardonnez-moi. Alors c'est vrai qu'on est un peu entre deux pour l'instant, parce qu'on a déconfiné et en même temps il y a encore des gens qui hésitent, donc c'est compliqué de se faire une idée de ce que ce sera après. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez créé ces deux modes, en fait, désormais? Est-ce que vous craignez un peu qu'au fond, les gens ne se déplacent plus jusqu'à votre boutique, puisque vous êtes à leur portée? Comment vous voyez un peu les choses?
Non, je pense justement qu'il y a une vraie synergie. Il va y avoir des personnes qui vont se déplacer parce qu'elles aiment se déplacer, et d'autres qui n'ont pas forcément le temps ou qui sont craintives toujours du virus, et ça, elles se font livrer, ça les arrange. Et l'intérêt de ce commerce, à double possibilité, fait que donne la possibilité aux gens de pouvoir continuer à consommer sans crainte. Et aussi par manque de temps, ça fait que c'est un commerce sans contrainte comme la grosse plateforme Amazon, mais en ayant tous les tous les avantages de retrouver son commerçant si jamais il y a un besoin de conseil ou d'échange.
Et alors justement, parce que vous avez prononcé le mot Amazon, d'ailleurs, est-ce que vous dites, est-ce que vous avez dit j'y vais, précisément parce qu'il y avait la plateforme qui va avec, qui est une plateforme un peu plus locale, même carrément locale, une plateforme qui est à vous, en fait, est-ce que vous vous dites, est-ce que vous l'auriez fait sans la plateforme dédiée, en quelque sorte?
Non, parce que je pense qu'on est justement là, il y a une vraie force à 300 commerçants, on a une visibilité. Toute seule, non, toute seule, j'ai peu de moyens. Là, c'est l'union qui fait la force, justement.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage, Laurence. On vous souhaite bon courage dans votre commerce hybride, au fond, désormais. Après tout, c'est peut-être comme ça, effectivement, que ça s'appelle, pour que chacun puisse continuer à vivre, pour en discuter ensemble jusqu'à 20h. Marc L'Olivier est là. Bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
Vous êtes le directeur général de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Et bonsoir à vous, Vincent Chabot.
Bonsoir,
Fabien. Vous êtes
Fabien.
Sociologue et auteur de L'éloge du magasin contre l'amazonisation. Et c'est publié chez Gallimard. Ça a été publié, donc, cette année chez Gallimard. Je vais vous poser la question à tous les deux, Marc L'Olivier, Vincent Chabot. Marc L'Olivier, c'est vrai que ce qui est intéressant dans l'exemple de Laurence, c'est la plateforme, en fait. Preuve que toutes les plateformes ne sont pas des mangeuses de commerçants. Au fond, il y a 1000 sortes de plateformes, comme il y a aujourd'hui 1000 sortes de magasins en ligne. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
On peut dire ça. L'exemple de Laurence est tout à fait intéressant parce qu'il illustre ce qui s'est passé. Il s'est passé avec cette crise qui a été à la fois un révélateur et un accélérateur. Un révélateur parce que les commerçants sont aperçus, effectivement, que les magasins pouvaient être fermés et qu'ils avaient besoin de trouver un autre relais pour être en contact avec les magasins. Et c'est un accélérateur parce qu'on a beaucoup de témoignages comme celui de Laurence, de commerçants de proximité qui hésitaient, qui n'avaient pas le temps, qui disaient « je ferai ça après » et qui se sont lancés. Ils se sont lancés avec beaucoup de succès. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Laurence de double possibilité. Ça ne remplace pas le magasin, ça ne fait pas fermer les magasins, c'est en plus du magasin. Et comme le disait très bien Laurence, aujourd'hui, on a des vies qui sont extrêmement actives. On aime bien avoir cette possibilité d'aller soit en magasin, soit Internet. Et on aime bien que les magasins justement offrent cette possibilité d'acheter sur Internet avec, et ça c'est tout à fait nouveau, ces plateformes locales. On a effectivement des grandes plateformes, puis on a aussi ces plateformes locales qui fédèrent des commerçants, et en fait on retrouve un peu la place du village, mais cette place du village elle devient virtuelle et complémentaire du magasin.
Est-ce que Laurence et d'autres auraient pu exister de toute façon sur une grosse plateforme à la Amazon? Parce qu'en soi on se dit c'est immense, donc du coup ça lui donne accès à un marché qui est monumental, et en même temps comment on existe au milieu de ça?
On existe, elle aurait pu aussi aller alors sur Amazon ou Rakuten ou eBay où il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui. On a des exemples aussi de commerçants qui ont fait le choix d'aller sur ces grandes plateformes où vous avez d'un coup effectivement accès à une clientèle qui est extrêmement large. Alors vous pouvez avoir peut-être au sein dans l'équipe des gens qui sont un peu plus qui connaissent un petit peu mieux le mécanisme, et vous avez une papeterie par exemple, une papeterie de quartier au Havre, rue Aristide Briand, c'est intéressant. Ils ont ouvert leur site sur Amazon lorsqu'il y a eu le tramway, ils ont dû fermer le magasin et donc ils ont mis ça sur Amazon. Aujourd'hui, ils ont 60% du chiffre d'affaires qui est fait sur Amazon. Ouais. Et donc vous avez, et c'est ce qui est intéressant avec le e-commerce, c'est que vous pouvez dimensionner par rapport au projet, c'est-à-dire vous pouvez faire simplement des réseaux sociaux, vous pouvez faire comme Laurence, vous prenez une plateforme locale, vous pouvez aussi avoir un peu plus d'ambition et donc vous allez pouvoir dimensionner votre projet par rapport à vos objectifs.
Il y a, avant de donner la parole à Vincent Chabot, il y a une chose qu'il faut peut-être expliquer aux gens, Marc L'Olivier, la moitié des ventes Amazon ce sont des vendeurs tiers.
Tout à fait, c'est la marketplace, voilà. Donc c'est une place de marché. Effectivement Amazon, alors il faut aussi un petit peu dédramatiser un petit peu tout ça.
Quand on dit que certains vont se mettre sur Amazon, faire une souscription sur Amazon, ce sont effectivement très souvent des vendeurs tiers.
Bien sûr, et beaucoup de PME, TPE qui vendent sur Amazon, Amazon et sur Rakuten et sur toutes les autres plateformes. Carrefour vient d'annoncer qu'ils allaient lancer aussi une très grande plateforme. Aujourd'hui, cette intermédiation, ces plateformes, c'est devenu quelque chose de très important dans le commerce, et c'est intéressant pour les commerces de proximité parce que ça leur donne effectivement, ça leur permet de monter une marche en étant visible d'un très grand nombre, soit avec des plateformes locales, soit des plateformes internationales.
Vincent Chabot, est-ce qu'on dit qu'il est en train de naître aujourd'hui une espèce de génération de néo-commerçants, en fait, c'est un terme que j'ai trouvé peut-être chez vous d'ailleurs, qui sont beaucoup plus portés sur le net que la génération d'avant de l'été? Est-ce que cette manière hybride, c'est comme ça que disait Laurence, c'est effectivement le nouveau commerçant, y compris celui de proximité, celui des centres-villes, celui de la petite boutique ou pas?
Oui, c'est-à-dire que l'appropriation des nouvelles technologies pour la vente en ligne et pour le magasin également, à travers aussi la communication numérique, hein, sur les réseaux sociaux, c'est évidemment l'affaire d'une nouvelle génération. Enfin, ça correspond aussi à l'apparition d'une nouvelle génération de commerçants plus à l'aise avec l'informatique, moins méfiant vis-à-vis du numérique et finalement beaucoup plus convaincu des effets positifs, beaucoup moins méfiant hein, vis-à-vis des outils numériques, effectivement. Je pense que aussi dans l'histoire du commerce, on retiendra effectivement l'apparition, la disparition finalement ou l'effacement du distributeur et on voit apparaître effectivement la figure de la marketplace, de la place marchande, de la place de marché comme nouvelle infrastructure des transactions.
Mais est-ce qu'on va, du coup, est-ce que le risque, c'est pas d'aller vers des boutiques qui existeront toujours dans les centres-villes, mais qui seront des espèces de magasins vitrines, en fait, où on se contente de voir les choses, mais on va les acheter ailleurs. Donc, au fur et à mesure, ça finira par ressembler à plus grand-chose.
Ce qui est sûr, c'est que le magasin se réinvente. Aujourd'hui, et on voit à travers ces magasins, on voit même des pure players, c'est-à-dire des sites qui sont créés sur Internet, qui ouvrent des magasins. Aujourd'hui, cette relation magasin-internet, elle évolue et elle offre un nouveau commerce qui est demandé. Alors, à la fois par les jeunes, mais c'est pas que les jeunes. Aujourd'hui, on voit effectivement, nous, dans les statistiques de la FEVAD, on voit que les plus fortes progressions, c'est sur les 65 ans et plus. Et pendant la pandémie, d'ailleurs, c'était une population qui était vulnérable et qui a beaucoup utilisé Internet et qui, aujourd'hui, consomme très largement sur Internet. Donc, c'est pas simplement quelques jeunes qui consomment sur Internet.
Alors, parfois, c'est pas si simple. Je voudrais qu'on écoute Monique. Vous êtes dans le Pays Basque. Monique, soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors écoutez, je trouve très intéressant les différentes expositions qui ont été faites, mais je pense qu'on parle de deux choses différemment. Je pense qu'un commerçant ou un artisan d'ailleurs, c'est avant tout quelqu'un qui crée un lieu avec des produits qu'il va vendre et qu'il choisit. Je parle là de commerçants indépendants. Mmh. Moi je représente une association de commerçants à Bayonne qui regroupe 1500 commerçants et artisans sur un centre-ville. Et d'abord, ce que je voudrais dire en tant que citoyenne, par rapport à tout ce qu'on a entendu sur la solidarité, je trouve épouvantable le fait qu'on puisse oublier qu'un commerçant, c'est quelqu'un qui tient un lieu dans une boutique, dans une ville, qui donc crée du lien social. Mmh. Et moi, les clients qui viennent chez moi, ou chez mes collègues, bien entendu, ne vont pas pouvoir trouver la même chose sur Internet. Sur Internet, on va leur faire une proposition plate d'un produit. Moi, je propose plusieurs dimensions. Je propose de l'affectif, je propose du choix, du conseil, je propose un moment de vie que l'on pense ensemble. Je ne suis pas seulement à l'adresse de quelqu'un qui va acheter, je suis à l'adresse de quelqu'un qui existe. Donc je pense que la proposition que l'on fait dans les magasins, elle est indétrônable.
Mais par contre, allez-y, finissez Monique.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je ne suis pas du tout contre les... Pourtant, je suis vieille, entre guillemets, mais je fais partie de l'ancienne génération, ça fait 20 ans que je travaille.
Dites-moi quel âge vous avez pour voir.
J'ai 63 ans,
d'accord,
donc je suis
vieille. D'accord, vous pouvez raccrocher. Allez-y.
Non, mais c'est la tranche France Inter, ça va bien, je suis bien juste là. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'utilise les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout ce qui est à ma disposition, parce que c'est une nouvelle vitrine. Donc, je me fais connaître de gens qui ne sont pas dans ma première, dans mon premier rayon, si vous voulez, de chalandise. Hein. Et donc, je vais chercher des gens qui sont plus loin, qui sont à 100, 200 kilomètres, et qui vont venir visiter donc notre centre-ville de Bayonne, et qui vont à ce moment-là se dire, tiens, mais ok, au fait, si j'allais faire un petit tour chez... Voilà. Et ça, nous le faisons tous, hein. Je ne parle pas que de moi.
Et finalement, vous êtes aussi hybride que notre ami Laurence précédemment, au fond, et chacun s'y est mis. Vincent Chabot, bien sûr que Monique a raison, le lien social est important, l'affectif, le passage dans le magasin, c'est évidemment autre chose. On a toujours l'impression que la crainte des gens, la frayeur, c'est que l'un disparaisse au profit de l'autre. Est-ce qu'on peut survivre longtemps, au fond, ou est-ce que on peut avoir aussi cette crainte avec ce double modèle, ce modèle hybride?
Oui, alors je rebondis un peu à la présentation de votre émission. Il faut aussi rappeler quand même que le petit commerce, hein, le petit commerce indépendant, a souffert de la périphérisation du commerce par la grande distribution depuis les années 60-70, bien avant évidemment l'arrivée d'Amazon. Ouais, ouais. Ce que je retiens du témoignage, c'est effectivement que les consommateurs veulent aujourd'hui une vente technicisée qu'apportent les plateformes locales, je pense que c'est un modèle vertueux, mais aussi une vente, vous l'avez rappelé, socialisée. Pendant le confinement, on a vu le doublement du chiffre d'affaires des primeurs et des bouchers. Alors, évidemment, on ne pouvait pas se déplacer dans les hypermarchés comme on voulait, loin de son domicile, mais je pense aussi que les Français sont attachés au lien social, bien entendu, à la vie subtile du commerce, au marché, etc. Et là, je pense que l'avenir est aussi sera au rendez-vous hein, pour ces formes de commerce plus traditionnelles, finalement.
Eh bien, justement, on va écouter Elisabeth, qui voudrait en être sûre, elle a besoin d'être convaincue, Elisabeth. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Et merci à vos invités. Effectivement, j'ai besoin d'être convaincue et j'espère qu'on va Moi, je suis assez déçue par justement tout ce truc sur Internet. Il va falloir que j'achète des bouquets toujours sur Internet. Je verrai plus ma fleuriste, je verrai plus mon libraire qui sait tout de moi et qui sait très bien me conseiller. Il va falloir que j'achète de la très bonne nourriture pour dans un resto. Il va falloir que caviste, ça sera sur Internet. C'est comme ça qu'il va me conseiller. Enfin, c'est plein de choses comme cela et qu'on a vu hein, pendant le confinement. Et donc du coup, enfin moi je sais que là il y a un resto, un très bon resto, hein, qui est pas loin de chez moi et qui lui a décidé de continuer qu'en drive. Donc le bonheur de partager un repas avec les amis, eh ben c'est fichu.
Mais est-ce que vous savez s'il continue qu'en drive parce qu'il a perdu beaucoup d'argent et que c'est extrêmement compliqué, qu'il peut pas rouvrir la salle dans les bonnes conditions, ou il continue qu'en drive parce que finalement ça lui rapporte plus? Parce qu'à mon avis, c'est plus. Vous croyez? Parce que j'ai un peu le sentiment que c'est la solution, c'est la case numéro un, moi. Enfin, on verra après à ce moment-là. Et après, j'ai une dernière question pour vous, Elisabeth. Pourquoi pas les deux, en fait? C'est-à-dire, au fond, votre libraire qui vous conseille aussi bien, pourquoi pas le commander par son site internet à lui, le bouquin qui vous manque, sans pour autant passer par une grosse plateforme?
Bah parce qu'il pourra pas me conseiller.
Non mais si, en faisant les deux, je veux dire, en allant le voir, et puis aussi en commandant, y compris là où il est lui, en fait, non?
Je sais pas, moi je suis dans une ville où il y a des libraires qui sont associés, les plus grandes librairies, mais qui sont indépendantes, et si on n'a pas le bouquin qu'on veut ou qui nous conseille chez lui, eh ben il nous dit, ah tiens, ils l'ont dans la librairie d'en face. Donc non, j'ai pas de liseuse, il est hors de question que... Non, moi je suis une... Je ne veux pas dire que je suis une réac, mais je suis une traditionnelle.
Vous ne voulez pas de ce truc sur Internet, comme vous l'avez dit vous-même?
Ben oui, il n'y a aucun plaisir de... Enfin, moi, mon libraire, je le connais depuis 20 ans. Donc, voilà, il me connaît, je le connais. Mais c'est pareil pour tout. Hein. Je vois des tas de gens qui vivent une solitude terrible. Et en fait, ils arrivent à se déplacer que pour aller dans les petits commerces et pour parler. C'est... Enfin, bon, voilà, c'est tant mieux pour ceux qui s'en sortent en faisant les deux. Mais à mon avis, ça doit leur représenter beaucoup, beaucoup plus de travail, mais peut-être plus d'argent, je ne sais pas. Mais je ne vais pas acheter une robe taille 38 ou 40 sur Internet, alors que toutes les c'est surtout des tailles en fait un peu différentes selon le magasin où on est.
Merci voilà. Beaucoup Elisabeth pour votre témoignage. Marc-Olivier, bien sûr qu'il y a des gens à convaincre et cela dit, derrière ce que dit Elisabeth et le truc sur Internet, elle dit la même chose que notre auditrice précédente. Attention à la perte du lien social.
Oui, alors le lien social il est essentiel, et moi je crois que Internet est une chance pour les magasins parce qu'il remet justement le vendeur et le lien social au centre du magasin. Et je dirais Elisabeth, c'est pas l'un ou l'autre, il faut évidemment aller chez le libraire, mais si un jour vous n'avez pas le temps de passer et qui peut vous livrer, ou si votre fleuriste, vous pouvez aller déjà aller regarder un petit peu ce qu'il a comme fleur pour ensuite aller faire le bouquet avec lui, c'est super. Le fleuriste, il est sur Internet. Mmh. Les gens aujourd'hui sont sur Internet. Personne ne veut d'un monde qui serait que sur Internet. Et au contraire, aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le commerce de proximité, il offre quelque chose qu'Internet n'offre pas. Mmh. Internet vient en plus, ça vient compléter l'offre. On a fait un sondage qui dit que 75% des Français aujourd'hui souhaitent que leur commerce de proximité offre cette possibilité, cette double possibilité dont parlait tout à l'heure Monique.
Vincent Chabot, vous avez souligné tout à l'heure effectivement que la première raison d'appauvrissement du vrai commerce de proximité, ça a été effectivement les périphéries, les grandes surfaces, les magasins de ce type. Est-ce qu'on sait réellement jusqu'à quel point l'amazonisation, comme vous dites dans votre livre, et le e-commerce en tout cas, a porté préjudice au commerce de proximité? Est-ce que ça se chiffre ça? Ou est-ce qu'on est dans d'autres dimensions et au fond, on parle tellement pas de la même chose que c'est un peu compliqué.
Vous savez que le livre, c'est marrant qu'on ait parlé de livre, parce que le livre a été le premier produit à avoir été amazonisé hein, depuis 2000 avec l'arrivée d'Amazon en France. Et finalement, avec la loi Lang, mais aux États-Unis c'est le cas aussi, les librairies ont su résister finalement, et parfois même renaissent à certains endroits. Donc je pense que le combat n'est pas perdu, loin de là, et des valeurs comme le local, la proximité, etc. sont aujourd'hui des valeurs montantes qui favorisent aussi, avec l'aide des collectivités locales, qui les élus ont accueilli à bras ouverts la grande distribution solution pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être un retour vers le centre-ville. Il y a des enjeux hein, en termes d'animation, d'attractivité économique, d'emploi, de vitalité démocratique. Je pense que les élus aussi et les collectivités locales viennent soutenir le commerce de centre-ville. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu la version, la vision idéale des consommateurs qu'ils ont à l'égard des magasins, la galerie marchande et l'hypermarché arrivent en dernier, et c'est le centre historique, le petit centre-ville, qui a les faveurs hein, des consommateurs.
Et en même temps, je ne sais pas si vous avez écouté tout à l'heure le journal de 19h, on entendait une femme qui a une épicerie, un vrai commerce de proximité, qui se plaignait que les gens étaient repartis finalement dans la périphérie et qu'au fond, tous les services qu'elle avait pu rendre, y compris pendant le confinement, ben, ce service était vite oublié, les gens étaient revenus finalement à leurs vieilles habitudes. Est-ce que là, Monsieur Chabot, vous avez le sentiment que le passage au commerce électronique, parce que c'était vital pour certains commerçants, est quelque chose qui va s'installer et que même les habitudes des consommateurs vont changer? Ou est-ce qu'il faut bien plus que deux mois et demi de confinement pour arriver à une société qui change quasiment de paradigme en fait?
Le drive de grande distribution alimentaire a recruté 2,5 millions de nouveaux clients pendant la période de confinement. C'est évidemment considérable. Un tiers à peu près de ces clients vont rester hein, et utiliser ces drives. Mais je pense plus largement par rapport au commerce en ligne, je pense aussi que les consommateurs doivent sortir par le haut d'une contradiction. On se satisfait d'une livraison individuelle à domicile, c'est évidemment très pratique, mais en même temps, on déplore collectivement la disparition de certains magasins dans nos quartiers. Donc je pense que l'enjeu, il est là aussi.
L'enjeu est dans notre hybridation à tous, Marc-Olivier, je vous voyais opiner du chef tout à l'heure. Est-ce que vous savez, vous, est-ce qu'on peut chiffrer jusqu'à quel point le commerce électronique est responsable des disparitions du petit commerce?
Ce qu'on peut parfaitement chiffrer aujourd'hui, c'est ce qu'il représente. Aujourd'hui, le commerce électronique, ça représente 10% du commerce de détail. C'est-à-dire que 90% du commerce de détail se fait encore en magasin. Mmh. Et si on prend l'alimentaire et on enlève le drive, on est à 2%. Donc c'est une révolution. Si on regarde les choses, finalement, ça a 20 ans, le e-commerce. Mmh. Ça fait 10%, ça gagne à peu près 0,5% de part de marché par an. Donc c'est une révolution, finalement, qui est assez diffuse, mais qui est très profonde. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'elle touche tous les secteurs, contrairement à la précédente révolution qui était la grande distribution. Elle touche tous les secteurs et elle est accessible à tous. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, on voit tous ces petits commerces aujourd'hui qui utilisent le e-commerce, ça a été dit tout à l'heure, pour se développer en France, pour agrandir la zone de chalandise. Mmh. Et ce qu'il faut, et je crois qu'il y a vraiment là un message vis-à-vis des pouvoirs publics, il faut accompagner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que les petits commerçants ne puissent pas utiliser cette modernité. Et je crois qu'il y a tout à fait moyen de faire rimer proximité et modernité. Et c'est même, à mon avis, la combinaison gagnante pour l'avenir.
Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Denis Poideau, vous êtes patron d'une chocolaterie artisanale. Vous êtes à Pontarlier et vous aussi, comme notre ami Laurence tout à l'heure, vous avez une plateforme qui est dédiée, en fait, qui est à vous, les commerçants du coin.
Oui, absolument. C'est une très belle initiative qui date d'il y a 2 ans maintenant. Ça s'appelle Ticker. C'est basé sur le Haut-Doubs. Et ils ont une antenne sur Pontarlier et Besançon. Et c'est vrai que cette antenne nous a permis cette année, pendant la période de confinement, de se rendre compte de l'importance et de l'intérêt des ventes en direct.
Comment ça marche chez vous? Vous êtes un chocolatier. On n'a pas oublié qu'on avait passé Pâques en confinement. Donc du coup, il a fallu vraiment faire quelque chose. Comment ça marche pour vous? Comment aujourd'hui les choses se séparent en fait? Est-ce que vous avez l'impression que la période du confinement a fait que vos consommateurs avaient changé leur manière de consommer? Ou est-ce qu'ils sont tous revenus chez vous, ventre à terre, pour déguster votre chocolat? Parce que là aussi, le lien social, quand on peut en profiter pour manger un carré de chocolat, c'est pas plus mal.
Oui, alors il y avait deux choses. Déjà, le manque de chocolat était vraiment néfaste. Et puis par contre, c'est très bon pour le moral, surtout dans cette période de confinement. Donc par rapport à Ticker, ils avaient choisi une quinzaine de produits de notre petite chocolaterie artisanale. Ils les ont mis en ligne. Et puis les commandes ont tout de suite réagi, quoi. Alors après, la livraison a été faite H24 ou H48 heures après. Et puis le lien social, j'entendais parler tout à l'heure un monsieur qui parlait de lien social. Eh bien, c'était vraiment flagrant. Hein. Lors des livraisons, les retours qu'on a eus via notre site étaient plutôt plus que positifs, puisque non seulement les gens étaient contents d'avoir du chocolat pour Pâques, mais également le fait de voir un serveur amené à disposition ou chez eux ce produit qu'ils attendaient tant, c'était vraiment la cerise sur le gâteau.
Et de savoir qu'il vient de vous, est-ce que sur cette plateforme, vous gardez contact avec les gens, c'est-à-dire que vous pouvez leur parler directement, ou pas du tout, en fait?
Non. Non, alors la plateforme est gérée par une filiale, c'est du privé, mais ça a été à l'initiative de Pontarlier Commerce Centre, puisque Pontarlier est une ville relativement dynamique. Mm-hmm. Et donc les gens passent commande, et puis bon, on a tous une page Facebook ou un site, et puis c'est vrai que les commentaires affluent plutôt de façon bienveillante.
Mais du coup, est-ce que vous avez le sentiment que vos consommateurs sont un peu différents aujourd'hui? Alors on manque un peu de recul, hein, mais pourront aller plus facilement au fond vers la commande, y compris sur cette plateforme dédiée, ou est-ce que là, déjà, depuis le déconfinement, vous avez senti que les ventes en magasin avaient repris de plus belle?
Alors, il y a deux choses. On n'a déjà pas la mémoire courte, nous, petits artisans, parce qu'on a besoin de tout le monde. Donc, en termes de traçabilité, nos produits sont plutôt valorisés et valorisants. Et puis, je vous dis, le retour de cette période nous fait dire qu'effectivement, Tickers a un bel avenir. Et donc, on va continuer le deal gagnant-gagnant. Alors, juste à titre d'exemple, pour la fête des mères et la fête des pères, c'est vrai que l'affluence était assez conséquente. Mmh. Alors certes, on a perdu 45% de notre activité à Pâques, puisque même si on ouvrait la boutique, eh bien, il y avait peu de monde dans les rues, ce qui était normal par rapport au risque sanitaire. Mais on va dire que l'un dans l'autre, effectivement, c'est une expérience à renouveler avec Tickers.
Et merci beaucoup pour ce témoignage, Denis Poideau. Merci vraiment, qui ressemble effectivement, Vincent Chabot, à ce que notre première auditrice, Laurence, nous racontait. L'autre lutte contre l'amazonisation, comme vous dites, c'est aussi celle-là, en fait. C'est-à-dire aller chercher, effectivement, des plateformes qui sont dédiées. Là, en l'occurrence, on est dans une zone géographique très précise. Besançon, Belfort, Pontarlier. C'est aussi une forme d'alternative, Vincent Chabot?
Oui, je pense que finalement, on va peut-être vivre, et peut-être que la crise aura eu du bon de ce côté-là, la deuxième étape de la révolution du e-commerce, finalement, en privilégiant, en faisant émerger une consommation en ligne vertueuse, durable, positive pour le petit commerce, positive pour le territoire et l'emploi, fiscalement en règle, hein, je précise.
Ouais, bien sûr.
Et finalement, le consommateur aura non pas un choix restreint, mais plutôt un choix large de plateformes locales vertueuses pour l'économie locale, comme je disais.
On posera évidemment aussi la question Marc-Olivier, mais Vincent Chabot, est-ce que vous savez, vous, si la fermeture des entrepôts Amazon en France, par exemple, si toute la mauvaise publicité qui a été faite à juste titre contre eux parce qu'il y avait des mesures sanitaires qui n'étaient pas respectées, est-ce que tout ça a créé une sorte d'appel d'air, en fait, pour créer justement des plateformes plus durables au sens, dans tous les sens du terme d'ailleurs?
Alors, les démêlés judiciaires d'Amazon ont peut-être servi effectivement à conscientiser davantage de consommateurs, à informer les consommateurs sur les pratiques sociales d'Amazon, par exemple dans les entrepôts, et à convaincre certains, effectivement, d'utiliser des canaux de distribution différents, alternatifs, en effet.
Marc-Olivier, ça a joué ou pas?
Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui, et il faut s'en féliciter, de ce commerce de proximité qui se prend en main, qui utilise les outils de la modernité. Mmh. Je crois que c'est vraiment le sens de l'histoire. On va avoir le e-commerce. En France, on a toujours tendance à vouloir opposer le e-commerce et le commerce, les grands, les petits. En fait, tout ça est plutôt vertueux et je crois permet au commerce de se réinventer, d'améliorer la relation client et ça me semble être extrêmement positif.
Jean-Marc est dans le Maine-et-Loire. Bonsoir Jean-Marc.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Jean-Marc.
Merci. Ma question était par rapport aux plateformes nationales. On parle d'Amazon qui est étranger. Jeff Bezos est le plus riche du monde. Rakuten qui n'est pas français. eBay qui est irlandais, il me semble, et qui ne paye pas d'impôts. Pourquoi n'y a-t-il pas la création d'une plateforme nationale française pour servir d'intermédiaire à tous les vendeurs qui veulent vendre sur Internet, puisque Internet est incontournable? Je suis donc du Maine-et-Loire, j'ai entendu en début d'émission la plateforme sur Angers, mais c'est uniquement 300 commerçants. Mmh. 300 commerçants, il faut aller les chercher spécifiquement.
Il faut la trouver. Si on ne sait pas qu'elle existe, on a peut-être du mal à tomber sur elle. Et effectivement, pour rebondir sur la question de Jean-Marc, alors oui, disons les choses clairement, Amazon écrase tout, enfin en termes de trafic, etc. Donc une plateforme franco-française, Marc-Olivier?
Oui, bien sûr. On a la chance en France d'avoir des champions du e-commerce. Il y a Amazon, effectivement. Alors Rakuten, il faut savoir qu'à l'origine, c'est un site français. Hein. C'était Price Minister qui a été choisi par les Japonais, effectivement, comme tête de pont en Europe pour leur savoir-faire. Mais vous avez Cdiscount qui est une très belle réussite française. Vous avez la Fnac, vous avez Redoute, vous avez aujourd'hui beaucoup d'une offre. Vous avez Mano Mano dans le bricolage.
Dans les sites d'e-commerce, bien sûr. Cdiscount, la Fnac numéro 3.
La France est un des pays les plus concurrentiels. Amazon, à peu près 20% de part de marché, c'est beaucoup moins que dans les autres pays parce qu'ils ont des challengers, notamment des challengers français. Donc j'invite Jean-Marc, effectivement, il y a ces discounts, il y a beaucoup de plateformes, il y a une richesse extrêmement importante de plateformes françaises qu'il faut utiliser également.
Mais c'est aussi notre côté grégaire, non, j'imagine, parce que quand même, nous, est-ce que nous sommes les seuls à avoir attaqué Amazon pendant le confinement, par exemple?
Alors ça, je ne peux pas vous répondre.
Je crois que oui, en fait, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais
je vous laisse la responsabilité de cette information. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en France, en fait, historiquement, en France, si vous voulez, le e-commerce s'est développé avec des pure players. Parce que c'est vrai que les acteurs traditionnels ont mis un petit peu de temps à venir sur Internet. Et il s'est développé énormément de savoir-faire, d'expertise, de champions. Hein. On a vraiment des sites qui se sont créés et ensuite qui ont diffusé. Puis aujourd'hui, on a tous les enseignes de la grande distribution. Hein. Carrefour vient encore d'annoncer des projets. Leclerc également. Auchan, toutes ces grandes marques-là aussi, aujourd'hui, sont présentes sur Internet.
Mais du coup, puisque vous avez ça vous aussi en tête, combien de ces gens qui sont passés au e-commerce aujourd'hui, encore une fois parce qu'ils en avaient besoin pour survivre également, combien sont passés par les gros mastodontes et les grosses plateformes, et notamment Amazon, par rapport à ceux qui ont préféré des plateformes plus locales? Est-ce que c'est vraiment 80-20 en gros?
Il y a 200 000 sites marchands français. Ils s'en créent un tous les demi-heures. Donc il y a une vraie vitalité. Et là-dessus, vous avez la très grande majorité, ce sont des petits sites qui utilisent pour certains les plateformes, d'autres qui utilisent plutôt les réseaux sociaux. Pour 80% qui sont implantés dans les territoires, ça c'est important, dans les petites et moyennes communes, et c'est surtout un vecteur d'entrepreneuriat très important.
Mais est-ce que j'ai zéro chance si moi je vends des badges, voilà, comme celui que j'ai là, si j'y vais toute seule?
Avez vos chances.
Non, mais alors j'ai le droit de le faire, mais en termes de visibilité, en termes de vente, etc. Est-ce que mon voisin qui lui se sera mis sur Amazon ira 4 fois plus vite que moi, ou mon voisin qui se sera mis sur une plateforme comme celle que nous décrivait par exemple nos deux commerçants précédemment, qui ira plus vite là-bas?
Alors, il ira beaucoup plus vite, mais vous pouvez être maligne. Et vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi servent de plateforme, justement, pour promouvoir les offres. Ce qui est sûr, c'est que si vous faites simplement votre site et vous contentez de faire un site, vous n'allez pas exister parce que l'offre est beaucoup trop. Donc, il faut trouver, et c'est là où il y a quand même un problème de formation, et il faut accompagner les commerçants, ce qu'on appelle le référencement. Alors, soit vous faites le choix d'aller sur une plateforme qui va effectivement immédiatement vous offrir la possibilité d'avoir accès à un marché très, très large, avec quelque chose d'intéressant. Hein. La marketplace, c'est intéressant de vous payer une commission. C'est-à-dire que si vous ne vendez pas, ça ne vous coûte rien. C'est différent de la publicité où vous payez au clic et là vous n'êtes pas sûr d'amortir. Ou alors effectivement vous utilisez les réseaux sociaux qui sont aussi des armes et des outils extrêmement puissants aujourd'hui.
Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Nicolas.
Merci.
Allez-y.
Alors j'ai créé moi un commerce en ligne pour une épicerie locale en vrac dans l'agglomération nantaise. Donc finalement j'aurais dans les projets locaux à proposer à mes clients de consommer en vrac en se faisant livrer chez eux. Donc j'utilise la plateforme en ligne pour vraiment faciliter un accès au vrac aux habitants de l'agglomération nantaise.
Et alors vous, la plateforme c'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous avez choisi comme plateforme? Vous apparaissez où?
Alors moi j'ai créé mon site vracfacile.fr, c'est vraiment j'ai créé mon site marchand. Et mes clients viennent faire leurs courses dessus, choisissent quand ils veulent se faire livrer, et c'est moi qui me déplace chez mes clients, justement pour maintenir aussi cette relation client qu'on souhaite avoir dans un commerce de proximité. Même si l'action d'acheter se fait en ligne, ils ont toujours leur commerçant, c'est Nicolas qui vient livrer ses clients à Nantes.
D'accord, vous n'avez pas de magasin physique, Nicolas, en fait vous,
Non, j'ai pas de magasin physique, j'ai par contre un camion de marché, et je travaille sur les marchés où je rencontre justement les clients qui viennent consommer en vrac.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Nicolas. Vincent Chabot, est-ce que c'est lui le e-commerçant moderne, donc alliant la proximité et le commerce en ligne, mais sans boutique physique?
Alors oui, c'est une forme effectivement de e-commerce de proximité. Je me suis intéressé pendant le confinement aussi au drive fermier. Et Drive Fermier, vous avez effectivement cette rencontre entre différentes valeurs montantes, les circuits courts évidemment, alimentaires, la technologie, la vente technicisée, et puis aussi la relation sociale, le soutien aux agriculteurs, aux éleveurs, aux maraîchers de notre territoire. Tout ça dessine effectivement un modèle de e-commerce de proximité.
Marc-Olivier.
Oui, les circuits courts, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On l'a vu pendant la crise Covid. Hein. Tout ce qui est bio, circuit court, a vraiment cartonné. Il y a une attente très forte.
Et ça marche aussi en ligne, ce genre de choses.
Et ça marche très bien en ligne. Alors, je ne sais pas si Nicolas utilise les réseaux sociaux, mais avec ou sans magasin.
Nicolas, j'imagine que vous utilisez les réseaux sociaux à fond.
Tout à fait. Le but, c'est de faire une communication par an, mais c'est aussi communiquer sur son activité d'entreprise et de la communication générale sur les valeurs qu'on veut représenter.
Exactement.
Très important.
Et vous avez des sites aujourd'hui comme GreenWiz, enfin beaucoup de sites qui sont sur ce créneau-là, qui répondent vraiment à une attente. Et Internet, effectivement, est un outil quand même très intéressant par rapport à cette activité.
Et Nicolas, j'ai une curiosité. Dans quel contenant vous donnez vos produits puisque vous êtes en vrac?
Eh bien, moi, je propose des sacs en tissu qui sont consignés, que je vais laver et réemployer.
Eh ben, formidable. Merci vraiment beaucoup. Frédéric est avec nous également. Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, moi, j'ai trouvé que pendant le confinement, d'habitude, je suis une grosse consommatrice sur Internet. Je travaille beaucoup, j'ai pas trop le temps. Donc, en première intention, je vais voir sur Internet pour voir si je trouve ce que je veux. Et pendant le confinement, j'ai fait exactement l'inverse. Je me suis rendu compte que les commerces locaux avaient beaucoup plus besoin de nous. Et du coup, j'ai complètement cessé d'acheter sur Internet et finalement, j'ai rien acheté. J'ai attendu la fin du confinement pour aller chez les vendeurs locaux.
Eh ben, bravo Frédéric. Et est-ce que vous êtes revenu sur Internet maintenant qu'on a déconfiné ou pas? C'est-à-dire, est-ce que les bonnes ou mauvaises habitudes, je sais pas, peuvent revenir au galop?
Alors, c'est vraiment en dernière intention. C'est-à-dire si vraiment il y a quelque chose que je trouve pas ici, dans ma région, enfin ma région, ma ville, hein, on va dire, éventuellement, oui, j'y retournerai, mais comme vous disiez tout à l'heure, vu la mauvaise pub d'Amazon, je refuse désormais de d'acheter sur Amazon, et je préférerais, même si c'est des fois légèrement plus cher, passer par Cdiscount qui est français.
Merci beaucoup Frédéric. Vincent Chabot, vous voyez, c'est ce qu'on disait, parfois il y a un certain nombre de choses très français peut-être aussi, effectivement, d'avoir regardé ce genre de choses en se disant non mais ça c'est plus pour moi, en revanche je vais chercher ailleurs. Qu'est-ce que vous dites, vous, le sociologue, de cette inversion de Frédéric qui était très ligne et qui est devenu très commerce de proximité après le confinement?
Oui, il faut rappeler évidemment que le consommateur est un citoyen qui fait ses choix, qui s'informe, etc., qui peut être intéressé par le Made in France, par le local, par toutes les valeurs montantes dont on a déjà parlé. Et puis, il faut aussi rappeler que le commerce est une activité privée, mais qui comporte de forts enjeux publics. Un clic derrière un écran, ça peut contribuer effectivement à la généralisation des emplois précaires, au flux de marchandises. 1 million de colis sont livrés par jour à New York issus du e-commerce, 200 000 à Paris. Ce n'est pas sans poser de problème pour l'environnement.
Absolument. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous de votre participation au téléphone sonne. Merci de vos nombreuses questions. Portez-vous bien.